Éric Latigot, bonjour. Donc
bonjour.
Vous êtes le réalisateur de hashtag Je suis là, qui sort le 12 février. Près de 15 ans après, Prête-moi ta main, retrouvailles, grande retrouvaille avec Alain Chabat.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais.
Vous étiez resté en contact avec lui? Vous avez écrit pour lui?
Alors, j'ai écrit pour lui et oui, je suis en contact avec lui parce qu'on est amis dans la vraie vie. Donc, ça permet de... Voilà, on se voit régulièrement et... On échangeait un soir sur nos projets respectifs et je lui ai raconté cette histoire que je n'avais pas encore écrite, mais qui était dans ma tête et qui est venue de mon producteur Édouard Veil chez Rectangle qui m'avait raconté cette anecdote, enfin ce fait divers plutôt, de cet homme qui est venu, qui est parti en Chine, un Hongrois je crois, qui est parti en Chine retrouver l'âme sœur qu'il avait rencontrée sur les réseaux sociaux. Et qui, en fait, la jeune fille n'était pas du tout là, à Pékin. Arrivé à Pékin, il s'est retrouvé tout seul à l'aéroport et il s'est mis en grève de la faim. Et l'idée est plutôt saugrenue, mais voilà, chacun sa vie. Et il a fait ce choix-là et au bout de 4 jours, il a eu une certaine popularité parce que c'était so cute. Un Européen qui vient en Chine.
C'était à quelle époque, ça, par rapport au...
C'était il y a, je crois, 4 ans,
ah ouais,
comme
ça,
4-5 ans. Oui, ouais. En plus, non mais en fait, quand on est... chose qui a été étonnante, c'est que arrivé en Corée, j'ai eu un dîner avec l'ambassadeur qui m'a dit qu'il y avait 4 cas comme ça, par
voilà.
3-4 cas de personnes, d'occidentaux qui viennent en Corée ou dans des pays... asiatiques et qui viennent retrouver l'âme sœur. Et donc, il les retrouve errants dans la ville, à Séoul, paumés, complètement paumés, et ils sont rapatriés sanitaires. À chaque fois, c'est la bonne pioche.
Pourquoi vous l'avez changé à Corée du Sud, si c'était à Chine? C'était avant le succès de Parasite.
Non, j'avais pas vu Parasite encore. J'avais pas vu Parasite. Déjà, je suis dingue du cinéma coréen. J'adore le cinéma coréen. Et pour moi, la Corée, en fait, pourquoi j'ai choisi la Corée? Parce que c'est un pays qui est totalement émergent, c'est un pays qui est entouré d'ennemis. La Corée du Nord, quand je dis ennemis, oui, des ennemis potentiels. Le Japon, la Chine, ils se sont fait envahir à longueur de temps. Et c'est un pays qui va de l'avant tout le temps, qui se reconstruit et qui est... C'est des gens, c'est des éponges, ils prennent tout ce qu'il y a autour et ils le revisitent. Et ils sont à la pointe de la technologie. C'est 5 familles qui tiennent la Corée du Sud. Et ils s'appellent entre eux. Tiens, j'ai besoin de ça pour ma bagnole. J'ai besoin d'un truc électronique. Tu ne peux pas me sortir. Ouais, pas de problème. Un mois après, ils ont trouvé la solution. Le nouveau radar, le nouveau truc, le nouveau machin. Et ils sont tout le temps en perpétuel renouvellement. Donc, puis voilà, le cinéma de Park Chan-wook, de Bong Joon-ho, c'est un cinéma qui m'a toujours attiré parce que je trouve qu'ils sont d'une modernité absolument incroyable. Ils ont une manière de filmer qui est très singulière et qui est à la fois d'une rare violence. Et c'est un des pays les plus sûrs au monde. C'est que vous n'êtes jamais agressé, vous pouvez être dans les coins les plus retirés de Séoul, vous n'allez jamais être agressé. Vous oubliez, ça m'est arrivé, moi je suis un taudis, je paume tout le temps mes affaires. J'ai paumé mon téléphone, combien de fois j'ai perdu mon téléphone dans l'aéroport, je le retrouvais à la même place 2 heures après. 2 heures après, c'est insensé. Alors que vous êtes dans un aéroport qu'il y a plein de gens qui passent, en plus il y a des Européens, il y a des Occidentaux, c'est un aéroport. Et bien même à l'aéroport, paumez votre truc, et ben non, vous le retrouvez. Donc c'est assez excitant comme pays.
Et qu'est-ce qui explique que c'est le délai entre vos deux films? Ça a quand même été long, 6 ans. Expliquez-moi un peu ce qui s'est passé.
Je pourrais me tirer une cartouche si je vous explique. Non, je suis un vrai taudis là-dessus aussi. Et maintenant, ça y est, j'ai arrêté. Je veux arrêter ce cycle de 4 ans ou 5 ans, quelquefois 6 ans. Mais c'est plutôt 4 ans entre les films et j'en ai marre. Là, ça y est, j'en écris 2, du coup. Le prochain, c'est une adaptation d'une bande dessinée japonaise qui s'appelle Cet été-là, que j'écris avec Delphine Glaise et qui est produit par la Intal. et un autre, une comédie, pure comédie. Et je reviens avec Édouard Veil, hein, de chez Rectangle. Donc maintenant j'enchaîne, j'en ai ras-le-bol. Puis je suis une personne âgée, faut y aller là.
C'était dur à gérer le succès ?
Curieusement, bizarrement oui. Vous n'avez pas le droit de vous plaindre, mais en fait ça m'a foutu un cafard.
À ce point ?
Ah ouais, je suis carrément. Ça a été. Parce que tout d'un coup, même les gens dans la profession ou dans les trucs, ils vous foutent une pression. C'est eux qui vous foutent la pression, c'est pas vous. En fait, c'est ce que vous entendez autour. Et vous êtes là, entouré de superlatifs, de trucs, c'est dément, ces trucs. Mais ta gueule, c'est un film. Enfin, tu vois, tout va bien. C'est bon, j'ai pas fait une greffe. J'ai pas fait une greffe du cœur. J'ai pas. Non, ça va. J'ai fait un film, c'est une proposition. C'est une. Et puis, vous savez pas que ça va être un succès. Mmh. Vous faites un film, vous racontez une histoire. Il s'avère que le public s'en est emparé. C'est génial, c'est fabuleux. Mais c'est curieux. C'est curieux.
Le Famille Bélier, à l'époque, ça cartonnait à Issaï plus que Star Wars à la même année.
Mais il paraît, ouais.
C'est bizarre. Mais partout dans le monde, en Colombie.
Colombie, ça a été dément.
Est-ce que vous êtes attendu à tel succès ou...
Carrément pas. Non. C'est très bizarre. J'en parlais aussi avec Nakash et Toledano sur Intouchable. Intouchable, ouais. Ça a été une espèce d'ovni qui est arrivé. Mais on ne sait pas. Nous, on raconte des histoires.
Et hier, quand je suis venu, donc, au taxi, j'ai pris le taxi à la radio, ils ont mis une chanson de Michel Sardou.
Ouais.
Mais vous pensez qu'il est devenu même plus populaire à cause du film ?
Il a eu un pic, il a eu un petit pic, Michel Sardou, avec, grâce au film. Apparemment, les gens d'Universal m'ont dit qu'il y avait les ventes étaient remontées de ses albums.
J'ai le goût d'enchaîner là-dessus avec le fait que La Famille Bélier était un film justement qui baignait un peu dans la nostalgie d'une certaine époque, la chanson française, c'était un milieu agricole, etc. Et là, votre film, cette fois, est profondément ancré dans la modernité. Est-ce que c'est une réaction ou...
Ben non, maintenant que vous me le dites, oui. c'est vous qui me l'amenez, vous voyez, c'est intéressant. Non, alors ça, vraiment, c'était pas voulu. Ce qui m'intéressait, en fait, les réseaux sociaux sont un des acteurs du film, en fait. Mais c'était pas ça. Le moteur initial, c'était plus la manière dont vous croyez être dans une vérité. Et d'ailleurs, c'est ce que veut dire le titre aussi, hashtag je suis là, ça veut dire quoi ? Je suis là, c'est bourré de sens. C'est très simple, mais je suis là. Ouais, je suis là. T'es où ? Je suis là. Mais t'es là. Est-ce que t'es vraiment là ? Est-ce que vous êtes là quand vous dites je suis là ? Est-ce que vous êtes dans la vérité ? Qu'est-ce que la vérité ? Est-ce que... Alors, je ne veux pas partir dans des délires paranormaux, mais ouais, qui on est véritablement ? Qu'est-ce qu'on est par rapport à ce garçon ? Il se pose quand même des questions. Il est un peu à côté de la vérité. Il est un peu à côté de la réalité, justement. Et on peut vivre, parce qu'on peut vivre comme ça, parce qu'on est emballé, on est embringué dans son boulot, on est dans un vortex de travail. Lui, en plus, la restauration, on sait que c'est un métier hyper exigeant, hyper prenant. Vous êtes de 4 heures du matin à Rungis jusqu'à 2 heures du mat avec vos clients que vous ne voulez pas abandonner dans votre resto. Donc, c'est un truc d'échange, c'est quelque chose de... Et il s'avère qu'en effet, c'est d'actualité. Il s'avère que c'est d'actualité, ouais, c'est sûr.
Le personnage de Stéphane, donc, interprété par Chabat, enfin, il ne semble pas très réseaux sociaux au départ. Et pourtant, comment se fait-il ? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il en arrive à s'inscrire et à chercher une relation sur Instagram ?
Mais justement, c'est toute la...
Quel était l'avant du film, finalement ?
Ben, l'avant du film, c'est que lui, il découvre, en effet, ça, c'est une brêle avec les réseaux sociaux. Il ne sait absolument pas. Il demande d'ailleurs à un jeune garçon, tu te dis, mais comment ça se passe ? Est-ce que je suis en privé ? Je ne suis pas en privé ? Comment...
Il a quand même fait la démarche,
il a fait cette démarche-là. Ouais. Et il prend le côté positif de ces réseaux sociaux, qui est de découvrir. Moi j'ai découvert plein de choses avec Instagram, des artistes, des danseuses, des peintres, des photographes. C'est un puits, c'est une caverne d'Alibaba. Il y a plein de choses très différentes. Vous passez d'une photo à une autre, vous avez traversé le continent avec des esprits différents, avec une culture, des cultures qui se rejoignent, un œil qui est différent selon une photographie d'un arbre prise par un Coréen ou un Américain ne va pas être la même chose. Ça ne va pas être la même couleur, ça ne va pas être le même angle, le même axe. Vous voyez, tous les regards sont différents. Donc, c'est ça qui me passionnait là-dedans. Et lui, en fait, Stéphane, il découvre cette peintre coréenne. Et du coup, un échange se crée. Et voilà, c'est après jusqu'où vous allez dans la relation. Mmh. Qu'est-ce que vous vous inventez dans votre vie pour vous autoriser tout d'un coup à passer de l'autre côté du miroir, à revenir dans cette réalité, parce que c'est virtuel tout ça. C'est virtuel, c'est du Kleenex. On est en Kleenex sur les réseaux sociaux. On jette, on prend, on jette, on prend, on jette, on prend. Et ça fait partie maintenant de notre journée. C'est insensé. Des gens, moi je vois dans mon entourage, il y a des gens qui passent 3-4 heures par jour sur les réseaux sociaux, alors qu'ils ont une vraie vie. Hein. Ils ont femme, enfant, ou mari, enfant, mais ils sont scotchés à ça, quoi, à leur écran.
Il y a des couples qui divorcent à cause des réseaux sociaux. Je pense que c'est la première raison pour le divorce.
C'est passé la première raison. Ah ouais, vous voyez. C'est pas étonnant.
C'est un film sur la solitude avec un héros qui n'arrive pas à communiquer, que ce soit par le virtuel ou le réel. C'est pas un peu ironique, il arrive à créer des liens dans un pays qui ne comprend pas la langue.
Ouais.
Je trouvais que c'est intéressant le contrepoint que d'exister réellement dans un endroit qui n'est pas familier, qu'on ne comprend pas, mais finalement qu'on peut être soi-même, puis que ça lui donne une deuxième chance.
Oui, exactement, c'est ça, c'est en fait c'est cette possibilité-là qu'il l'a pas fait consciemment, mais en fait ça lui renvoie. En fait, j'avais le sentiment, je voulais le mettre là-bas aussi à Alain, Stéphane, le personnage de Stéphane, je voulais le mettre là-bas parce que justement, on n'a pas les codes de la Corée. On a une espèce d'image, mais qui est très faussée d'ailleurs. Enfin, qui est pas. On ne sait pas ce que c'est vraiment la Corée. On ne sait pas. Moi, j'y ai passé en tout, j'ai dû passer près de 3 mois. Je ne sais pas le millième. De ce qui se passe, un oui peut être traduit par un non peut être traduit par un oui. Voyez, alors déjà, il faut l'intégrer ça, et c'est hyper intéressant, c'est ultra nourrissant. Mais et puis ils ont plein de codes à eux, plein de choses culturelles, et je voulais qu'ils soient seuls en effet par rapport à tout ça, qu'il ait pas les codes. Vas-y, démerde-toi, tu te jettes. Comment tu vas appréhender tout ce qui va se produire autour de toi, comment tu vas le recevoir, comment tu vas réussir à le traduire et à te placer, et justement de se remettre, de faire une sorte de reboot, quoi. Tu fais un pomme Z sur ta vie, tu t'enlèves tout ce qu'il y a eu, tous tes repères d'avant, tu les enlèves, et maintenant, tu vas écouter et recevoir avec une nouvelle signification, forcément.
Quand on parle aéroport, on ne peut pas s'empêcher de penser à Terminal, ouais. Spielberg et Tom Hanks. Je suppose que vous avez été peut-être voir et revoir le film et peut-être reprendre certains éléments intéressants. Hein.
Je l'ai revu, oui, bien sûr, je l'ai revu. En fait, après, chaque histoire vous amène votre personnage autre part. Moi, ce que j'avais adoré, Spielberg, c'est pas des moindres. Et alors lui, ce qui me faisait rire, c'est que en fait, il l'a construit, l'aéroport. C'est Spielberg, quoi. Mon père, j'ai envie de tourner dans un aéroport. Pas de problème, on va appeler le chef d'écho. Bon, d'accord. Le mec, il est bien, il faut être bien en forme. Hein. Donc forcément, déjà, inconsciemment, vous racontez une autre histoire. Hein? Forcément.
On ne s'adapte pas à quelque chose.
Ouais. Non. On l'a créé. Ouais. Pourquoi pas? Et son histoire voulait ça. Et c'était sa manière à lui d'aller dans cette narration. Et moi, c'était autre chose. Il y avait d'autres aspects qui m'intéressaient et puis qui avaient déjà été faits. Donc,
puisqu'on parle de cinéma et de Spielberg, et vous avez évoqué tout à l'heure votre amour du cinéma coréen, vous avez un parcours assez atypique qui vous a mené finalement comme réalisateur. J'aimerais savoir si le désir de cinéma était là depuis toujours et comment finalement tout ça s'est concrétisé.
Oui, le désir de cinéma, en tout cas, c'était les histoires. C'était depuis tout petit, je me raconte des histoires en permanence. Comme j'étais insomniaque, très jeune, et je dormais très peu, et je me racontais des histoires en permanence, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'arrivais même, il y a un truc, et j'ai commencé un sujet là-dessus, j'ai pas été au bout, j'arrivais à contrôler mes rêves. Quand je rentrais dans les rêves, comme je faisais des cauchemars abominables, j'avais la trouille de me rendormir, et du coup je me réinventais une histoire positive, et j'arrivais à être dans une espèce de conscience semi-conscient, où tout d'un coup quand je voyais que le rêve se barrait sur un truc glauque, s'il y avait une porte ouverte qui arrivait sur du noir, enfoiré, je refermais et je me dirigeais sur autre chose. Et je rajoutais des personnages. J'avais envie de rencontrer, Marilyn Monroe. Et Marilyn Monroe débarquait et on discutait, on faisait des trucs, on se baladait, on ne parlait pas, mais il se passait des choses. Voilà. Et puis après, moi, j'étais clair de commissaire-priseur. Je suis parti complètement dans autre chose, et puis j'avais rien fait avec ces histoires, et puis voilà, tout d'un coup j'ai eu cette chance de tilter dans ma tête et de passer à autre chose et tout lâcher et de reconstruire.
Stéphane, est-ce qu'il n'y a pas un petit côté Jacques Tati?
Total, je suis mille fois d'accord. Stéphane et Alain Chabat, il y a quelque chose de Jacques Tati, parce que en fait, ce que j'adore chez Alain et qu'on retrouve chez Tati, c'est cette espèce de stature très adulte, très mature, très masculine, et à la fois totalement enfantin. Mais il marche d'ailleurs, moi il me fait rire dans la vie, je suis mort de rire. Quelquefois je le regarde, je dis ça veut rien dire, ta démarche elle veut rien dire. Il marche, mais comme un gosse, vous voyez, c'est-à-dire qu'il a quelque chose d'insécure. C'est-à-dire que s'il y a un événement qui se produit, il va le bouffer. Donc il est là et du coup le corps il bouge pas de la même manière. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça c'est super beau. Il y a une poésie. Qui peut pas s'inventer, qui fait partie de lui, et c'est ça qui est très beau et qu'on a chez Tati aussi, d'une autre manière, mais il y a ça.
Blanche Gardin, un régal, non?
Elle aussi, c'est une Ferrari, c'est un régal. Tous ces dialogues, on les a refaits sur le tournage, et elle me proposait sans arrêt un truc nouveau, sans arrêt, et encore un autre. Je dis non, on va plutôt partir sur cette piste, pas de problème. Brrr. Elle revenait 5 minutes après, elle me faisait d'autres propositions, des trucs. Non, ça on va prendre. Je te lui faisais un puzzle de tout ce qu'elle m'avait dit, et 4 minutes après, on était sur le plateau, et bouf, elle avait ingéré tout ça, et vas-y. Elle est d'une vivacité, d'une... Je l'adore. Et puis une actrice, elle est merveilleuse. Elle est totalement dedans. Elle joue pas. Elle fait partie de la situation. Elle est dans la situation. Alors aider aussi avec quand on a Chabat en face, c'est une Ferrari, Chabat, parce que lui, il vit la scène. Il la joue pas, quoi. Il est à l'intérieur de la scène. Et c'est rare. Hein, on en a pas beaucoup des acteurs comme ça qui sont aussi puissants. Enfin, je trouve.
Niveau scénario, co-scénario, Thomas Bidegain,
ouais.
Deuxième fois,
il était venu me rejoindre sur La Famille Bélier, Thomas Bidegain, et dès que je lui ai raconté l'histoire, il était un peu sceptique au départ, Thomas, et ça l'a excité, on s'est régalé à l'écrire. Ça a été curieusement une écriture qui s'est fait d'un trait. On a écrit très vite, on a écrit en 4 mois, je crois, on a écrit hyper vite. Alors, ça peut vous paraître long, 4 mois, mais non, c'est un an et demi avant d'avoir la version qui vous plaît. Et en fait, on était à peine à une V2, qui pouvait même s'appeler une V1, et je l'ai donné à Édouard Veil, mon producteur, Et il m'a dit, mais c'est top. On y va. Je pars avec ça, je peux partir en financement. Je peux... Ouais. Et il est parti en financement avec. Nous, on continuait d'écrire. Mais à la cool. Et voilà. Et ça, voilà y a, c'est très curieux. Hein. Il y a des scénarios qui sont... La famille Bélier, c'était beaucoup plus long. Beaucoup plus long. Il n'y a pas de règles.
Merci.
Eric, merci à vous. Un grand merci.
Mais merci à vous.